Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie spéciale Champs-Élysées Film Festival jour 7. C'était le dernier jour tout simplement avant la clôture et voilà, j'ai donc terminé la compétition américaine et vu un film en avant-première, on va débriefer ça tout de suite en commençant par Kokomo City de D. Smith. This is survival work. This is risky shit. I want people to understand that it's okay. Just being something that you was born to be. It's guy after guy who's in denial. A black man should be this way and a black woman should be that way. Kiss my ass. Un portrait cru des vies de quatre travailleuses du sexe trans et noires qui confrontent la dichotomie entre la communauté noire américaine et leurs propres identités. Alors, c'est un film qui, pour le coup, m'a fait passer par plusieurs étapes, notamment de réflexion critique. Voilà, c'est vrai qu'au début, je me suis dit que c'était quand même assez dommage. Voilà, dans le sens où j'avais l'impression que c'était un film qui tournait vachement autour du pot sans pour autant vraiment rentrer dans l'art, quoi. Voilà, on parlait beaucoup notamment des types de clients qu'avaient donc ces travailleuses du sexe. Voilà, où, en fait, on parlait beaucoup de tout ce qui se passait autour, mais on parlait pas vraiment d'elles. Et ça m'a un peu frustré pendant un moment. Voilà, donc après, effectivement, c'est intéressant hein, de savoir, c'est vrai que c'est un sujet qui est très, très, très spécifique quand même. Voilà, déjà, des documentaires sur les travailleuses du sexe, ça existe, enfin, ça, il n'y en a pas beaucoup. Des documentaires sur les travailleuses du sexe noires, il n'y en a pas beaucoup. Alors, des documentaires sur les travailleuses du sexe noires et trans, effectivement, là, c'est vraiment un sujet qui, voilà, je pense qu'on pourrait dire un peu niche. Mais pour le coup, je pense que c'est pour ça que c'est une bonne idée. Voilà, un documentaire, avant tout, pour moi, c'est quelque chose à raconter. Voilà, c'est quelque chose qui, justement, voilà, cette nécessité à ce besoin-là d'être raconté. Et pour le coup, bah, c'est totalement le cas. Voilà, c'est quelque chose qui, je crois, n'avait pas été fait. En tout cas, j'en ai pas eu connaissance. Effectivement, c'était une très bonne idée de documentaire. Et donc, c'est un film qui est en noir et blanc. Voilà, je sais pas vraiment quoi penser du noir et blanc aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un peu utilisé pour tout et n'importe quoi. Alors là, bien sûr, il y a un intérêt esthétique. Voilà, et donc, si j'ai bien écouté le Q&A avec la réalisatrice, c'est aussi un peu comme ça qu'elle a eu envie de faire du cinéma à travers ce noir et blanc-là. Donc, c'est vrai que c'est significatif, voilà, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un procédé qui veut plus dire grand-chose, voilà, j'ai l'impression qu'il est un peu utilisé à tort et à travers, et que, voilà, quand même, comme je le disais hier, tout veut dire quelque chose quand vous faites des films, et pour le coup, voilà, utiliser noir et blanc, ça doit être significatif, en fait, tout simplement, et donc, je pense à, notamment, bah, récemment, les Olympiades de Jacques Audiard, où vraiment, je ne sais pas à quoi sert le noir et blanc, voilà, si ce n'est à faire esthétique, et encore, il est même pas très esthétique, c'est pas forcément un beau noir et blanc, donc voilà. Effectivement, je ne sais que penser de ce noir et blanc, mais bon, écoutez, c'est le jeu, et voilà, et en soi, c'est pas vraiment dérangeant, ça gâche pas le propos du film, mais je trouve ça un peu dommage que ce soit utilisé à tort et à travers. Mais donc, comme je vous l'ai dit, voilà, j'avais peur que c'est un film qui ne rentre pas vraiment dans ce qui pour moi était le plus intéressant à faire, et au final, c'est pas du tout le cas, voilà, ça finit par rentrer dans l'art, comme pour reprendre l'expression que j'ai utilisée, même si c'est pas forcément la meilleure. Donc oui, effectivement, ça finit par aller là, et en fait, voilà, nous parler de notamment de la condition de ces femmes, parce qu'effectivement ça pose un point de vue aussi en fait qui est moral hein, tout simplement, c'est-à-dire qu'en fait il y en a une qui nous dit que la plupart des gens qui viennent la voir, c'est juste des hommes en fait qui l'objectifient pour voilà assumer leur fantasme personnel à eux. Donc effectivement ça pose question, voilà, ça pose question, bien que le film soit parti par là, dans ces eaux-là, bien évidemment. Alors déjà c'est vrai que quand on parle des travailleuses du sexe, ça fait toujours débat, parce que bien évidemment il y a le droit de j'allais dire des femmes, mais de chacun à disposer de son corps hein, voilà, chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais c'est vrai que généralement ça cache d'autres choses, comme notamment le fait que c'est des femmes aussi qui se font exploiter tout simplement, voilà, qu'il y ait beaucoup de femmes étrangères en fait qui n'ont pas le choix, en fait qui font ça parce qu'elles n'ont pas le choix, qui du coup se font exploiter, voilà, ça c'est aussi un gros débat sur la prostitution, bien évidemment. Après il n'y a pas de mal en soi hein, dans le principe, voilà, moi je ne suis pas quelqu'un qui va juger, qui est très moralisateur, voilà, il n'y a pas de mal en soi, mais c'est vrai que voilà, notamment pour ces femmes, ça pose beaucoup de questions.
Et donc, bon, des femmes trans, voilà, c'est vrai que c'est quand même un cas qui est encore plus spécifique et qui amène aussi son lot de problématiques. Voilà, et en fait, ce qui est assez terrible, c'est que enfin, beaucoup, si ce n'est toutes, en fait, dans le documentaire, disent que si elles font ça, c'est avant tout parce qu'elles n'ont absolument pas eu le choix. Voilà, et que c'est, voilà, si elles avaient, il y en a une qui le dit, hein, si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait. Voilà, mais pour le coup, je ne peux pas, donc je me retrouve à faire ça. Et voilà, excuse-moi si voilà, j'ai dû faire ça pour survivre dans la vie, si j'ai dû faire ça pour être là aujourd'hui, pardon, mais j'ai pas eu le choix. Voilà. Donc effectivement, c'est moi, c'est ces thématiques-là que je voulais voir, oui et non, hein, en soi, voilà, mais où je me disais que c'était les plus intéressantes. Et donc elles sont quand même abordées, voilà, elles sont quand même abordées, donc ça c'est très bien. Ensuite, si je dois parler du film, voilà, en tout cas hors sujet entre guillemets, sans parler du sujet, je dirais que le montage notamment m'a énormément marqué, que j'ai beaucoup apprécié le montage, voilà, c'est quelque chose qui comment dire, va essayer de créer notamment une certaine musicalité par moment, voilà, qui va essayer d'assurer un certain rythme. Et donc au-delà de ça, c'est vrai que c'est un film qui quand même est drôle, et je pense qu'il l'est volontairement. Pour le coup, voilà, en soi, bon, bah, quand les travailleurs du sexe parlent et qu'elles disent quelque chose de drôle, c'est vrai que, bon, effectivement, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas préparé, quoi. C'est juste que, bon, bah, c'est naturellement quand elle parle, voilà, c'est drôle, c'est drôle. Mais pour le coup, c'est quand même un film qui est très drôle, et voilà, ça fait du bien à regarder, tout simplement. Et ça aussi contrebalance avec quelque chose, moi, qui m'a moins plu dans le film. C'est donc sur le fait que, au début, j'ai l'impression que c'était beaucoup mis en scène, dans le sens où, voilà, on va essayer d'un peu dramatiser les choses, et il y a de ça aussi un peu à la fin. En fait, il y avait une remarque très intéressante, mais ça c'était encore, c'était pas hier, c'était avant-hier, sur Rotting in the Sun. Le réalisateur disait que, en fait, ça servait à rien de trop accentuer certains moments parce que des fois ça faisait juste faux, en fait, voilà. Et donc, en fait, par moment, il y a eu des propos qui étaient très justes, voilà, sur justement, bah, une des travailleuses du sexe qui témoignait en disant que, enfin, sur sa condition, en fait, voilà, et sur, bah, je crois que c'est ce que je vous disais, sur, en fait, pourquoi elle fait ça, etc. Et donc, en fait, c'est assez puissant comme ça. Et j'ai l'impression que la réalisatrice, pardon, se sent obligée de quand même rajouter de la musique un peu triste, etc. Et tout. Et ça, j'ai un peu de mal parce que j'ai l'impression que vraiment, c'est vraiment destiné à être un peu de tire-larme. Et vraiment, on regarde comme c'est triste, t'as vu, etc. Donc, bref, c'est moi, quand je dis que c'est un peu trop mis en scène, c'est ça qui me. Voilà, qui m'embête un peu. Et comme je le disais avec Cata Limite, moi j'aime bien quand les documentaires aussi, bah, essayent de se poser, voilà, et de laisser les choses telles qu'elles sont. Après, ça dépend, hein, notamment, bon, il y a Jeunesse de Wang Bing qui est vraiment poussé au maximum concernant ça, concernant vraiment juste on laisse les choses se dérouler, j'ai pas du tout aimé. Après, ça dépend du sujet, ça dépend de la manière dont c'est amené, etc. Voilà. Mais en général, c'est un procédé que j'aime plutôt bien. Donc effectivement, ouais, les documentaires où on essaye de se mettre en scène, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel je peux avoir un peu de mal. Et notamment, bah là, il y a un personnage, je dis, bah voilà, le mot est sorti personnage, parce qu'en fait, j'avais vraiment du mal à croire que ce monsieur était réel, en fait, voilà, où il nous parlait de bah justement d'une femme trans, et que en fait, il avait des propos tellement tellement clichés, tellement je sais pas, c'était bizarre, j'ai eu du mal à croire à l'existence de ce petit personnage, et pour le coup je sais toujours pas si c'était vrai ou pas, voilà. Donc je sais pas si ce monsieur existe, mais toujours est-il que, en tout cas, ouais, il est là-dedans. Et bon, bah, je suppose qu'il existe vu que c'est un documentaire et qu'à aucun moment c'est précisé qu'il y a des bah, de la fiction dedans, donc voilà, sûrement qu'il existe. Mais quand même, c'est. Ouais, c'était curieux. Voilà, c'est assez curieux. Donc voilà, dans l'ensemble, ça reste un très bon film qui parle donc d'un sujet très important. Voilà, qui le fait très très bien. Et pour le coup, je vous le recommande fortement. Allez, on va passer au dernier film de la compétition américaine qui me manquait, puisqu'on va parler de Sometimes I Think About Dying de Rachel Lambert. Fran aime bien penser à la mort. Ça met du piment dans sa vie bien rangée. Lorsqu'un jour, elle fait rire le nouveau venu du bureau, les choses s'enchaînent. Un rendez-vous, une part de tarte, une conversation, une étincelle. La seule chose qui se dresse sur leur chemin, Fran elle-même. Alors c'est un film qui, ça peut faire bizarre à dire, mais en tout cas m'attirait par son titre. Voilà, ça m'a fait penser à I'm Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman, qui est toujours le titre de film le plus compliqué à dire de l'histoire, clairement. Voilà, mais bref, qui est un film que j'avais adoré, vraiment, qui était bah, clairement sur la dépression. Voilà, qui était pas super joyeux à regarder, mais vraiment qui est un film que j'avais trop aimé. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai vu ce titre-là, ça m'a immédiatement fait penser au Kaufman. Et j'ai eu, voilà, la volonté de le voir, même si bien évidemment j'ai prévu de voir tous les films de la compétition. Ça me donnait encore plus envie. Et j'ai découvert après que il y avait Daisy Ridley dedans. Voilà, donc Daisy Ridley, vous la connaissez très certainement pour les Star Wars, voilà, les derniers Star Wars où elle joue le rôle principal de Rey. C'est grâce à ça qu'elle s'est fait connaître pour le coup, mais voilà, je crois que je l'avais pas forcément vu dans autre chose. Et qu'est-ce que ça fait du bien, voilà, de la voir dans un cinéma beaucoup moins hollywoodien, beaucoup plus indépendant, voilà, où il y a une vraie intention, une vraie vision de voilà, d'une cinéaste, d'une auteure derrière. Ça fait extrêmement du bien, vraiment. Et pour le coup, voilà, si j'avais eu beaucoup de mal avec elle dans justement ces grosses productions hollywoodiennes, là vraiment elle a pu, je trouve, déployer sa palette de jeux, voilà, ce qui est pas forcément possible quand vous êtes dans des énormes productions. Voilà, je veux dire, vous allez pas voir un Marvel pour bon, elle a pas joué dans Marvel, mais c'est un peu le même principe, hein, c'est Disney dans tous les cas. Vous allez pas voir ces films là pour les interprétations, clairement. Et donc là, je l'ai trouvé extrêmement convaincante et extrêmement crédible dans ce personnage de Fran, qui est très réservé, très voilà, introverti, qui va vraiment ne pas parler aux gens, etc. Donc voilà, je l'ai trouvé très 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 convaincante sur ce point là et donc pour être honnête, voilà, le film m'attirait tout en sachant que j'avais un peu de mal avec Daisy Ridley, mais pour le coup j'avais quand même envie, j'étais curieux de voir sa performance et j'ai absolument pas été déçu, clairement. Donc bien évidemment, Fran, c'est la figure centrale du film, et donc effectivement j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait penser un petit peu à This Closeness, par moment aussi dans la mise en scène, voilà. Aussi par rapport au fait qu'il y ait un personnage qui soit ultra introverti, qui ait beaucoup de mal dans les situations sociales, et que ce soit un film qui exploite un petit peu l'anxiété sociale, même si c'est pas pareil avec celui-ci, je trouve. Voilà, c'est un film qui est plus vraiment doux, qui est voilà, assez je sais que j'avais dit ça pour This Closeness, mais c'est pas du tout pareil. Voilà, ici je trouve que c'est pas du tout grave, et même la musique, il y a quelque chose qui est un peu bref, de l'ordre du limite de la fantasy, quoi. Ça m'a fait penser un peu, notamment, je vous l'ai dit, au film de Kaufman, mais aussi un petit peu à certaines musiques de Midsommar par moment. Voilà, c'est notamment celle d'ouverture, voilà, pour Midsommar. Donc oui, il y a un peu ouais, de fantasy, tout ça. Donc voilà, c'est un film qui pour le coup est beaucoup plus léger. Et en fait, le personnage de Fran au début, c'est vraiment la sociabilité à son paroxysme. Elle est vraiment très renfermée sur elle-même, même dans sa pose, elle croise ses mains, enfin bref, elle est... on a l'impression qu'en fait elle est pas dans la pièce, ou alors qu'elle se sent de trop, etc. Et il y a notamment cette scène où une collègue, elle, part à la retraite, et donc c'est convivial, il y a tout le monde qui prend du gâteau, etc., du champagne et tout. Elle prend sa part de gâteau et elle sort de la pièce, mais elle la prend de manière très rapide et très discrète pour vraiment, voilà, et personne ne remarque qu'elle part de la pièce. Donc effectivement, c'est voilà. Et ensuite on voit que par rapport à ce collègue là qui s'appelle Robert, on voit qu'elle commence à s'ouvrir petit à petit, que voilà, elle est beaucoup plus bref, dans l'échange, déjà avec lui, parce que c'est lui qui permet ça, mais aussi avec les autres. Et donc pour le coup, voilà, c'est vrai que on a l'impression aussi de voir une renaissance de la part de ce personnage-là, et donc effectivement d'assister même à ses premiers sourires, notamment, voilà. Donc ça, c'est hyper touchant de voir ce personnage-là sourire, alors que pendant tout le temps avant, elle était réservée, qu'elle avait un rythme de vie qui est absolument carré, c'est-à-dire que voilà, notamment il y a un moment où elle va se coucher, j'ai regardé le réveil qui était sur sa table de nuit, c'était 22h15, donc on peut se douter qu'elle a tout le temps cette routine-là. Elle s'est couchée vraiment juste sur le dos, on ouvre les draps, on se referme un peu mécaniquement, en fait, voilà. Donc on voit qu'elle a ce rythme-là, que ça lui convient d'ailleurs, hein, elle a l'air parfaitement heureuse là-dedans, hein, tout ça, mais effectivement c'est vrai que de la voir aussi s'épanouir autrement, de la voir sourire tout simplement heureuse, c'est quelque chose qui est très satisfaisant en tant que spectateur quand on s'est vraiment attaché au personnage, qui est le cas. Je trouve que c'est un personnage très attachant, tout comme Robert, qui donc du coup est très différent. Voilà, lui est beaucoup plus jovial et beaucoup plus classique, entre guillemets, voilà, en termes introverti, extroverti, je sais pas trop comment formuler ça, mais donc ouais, lui est plutôt sociable, un petit peu extraverti, je pense aussi, voilà, bref, donc ils sont pas du tout pareils, mais pour le coup, malgré elle, elle peut pas s'empêcher de développer quelque chose pour lui, et donc c'est ça qui est beau aussi dans ce film, c'est cette chose-là. Et en même temps, voilà, je trouve que c'est un film qui réussit là où This Closeness avait échoué, justement, déjà parce que c'est mon film préféré de la sélection américaine, je vous le dis, et puis aussi parce que c'est un film qui articule parfaitement les différents aspects de son scénario. Voilà. Donc du coup, il y a cet aspect un peu réservé et le fait que, elle pense à la mort tout simplement. Hein, voilà, elle s'imagine ce que ça ferait de se suicider. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Puis il y a l'aspect relationnel. Et pour le coup, je trouve que les deux se marient parfaitement, les deux coexistent parfaitement. Et voilà, j'ai pas eu cette frustration-là de putain, mais il y a que deux intrigues différentes. Le film essaye de se concentrer sur les deux alors que ça devrait pas. J'ai pas eu cette frustration-là tout simplement parce que c'est pas du tout le cas pour le coup. Et donc voilà, c'était satisfaisant de voir quand même un film qui réussit là où un autre avait échoué. Et donc c'était aussi assez brillant dans l'écriture. Voilà, c'est un film qui moi m'a passionné de A à Z, où j'étais dedans de A à Z. Et la dernière scène, où enfin elle se confie à Robert sur justement ça, son rapport au suicide. Pour le coup, elle m'a vraiment marqué, elle m'a beaucoup touché et j'ai eu ce truc de j'avais envie de me pencher en avant, en fait, de sortir le dos de mon siège et de me pencher en avant, tellement j'étais pris dans le film. Donc voilà, ça c'est assez fort. Et effectivement, il y a ce thème du suicide, en tout cas pas du suicide, mais des pensées suicidaires. Même si pour elle, elle dit qu'elle a jamais pensé à se suicider, mais elle imagine parfois ce que ça fait. Et d'ailleurs, je sais plus trop qui nous avait dit ça, mais il me semble qu'il y avait un ou une cinéaste qui nous avait dit ça. Je crois que c'est un cinéaste qui nous avait dit ça. Peut-être dans Rotting in the Sun d'ailleurs. Hein. Peut-être dans Rotting in the Sun, voilà, où le réalisateur nous avait dit. Je sais plus. Mais en tout cas, oui, un cinéaste, je crois que c'était un cinéaste qui nous avait dit qu'en gros, oui, effectivement, parfois, lui imagine ce que ça pourrait faire de mourir, etc. Et en gros, que c'était quelque chose qui était, limite plutôt commun, où tout le monde. Peut-être s'est déjà dit, tout le monde y a déjà pensé en fait. Et donc effectivement, voilà, il y a une différence entre imaginer ce que ça pourrait faire et juste avoir vraiment vouloir le faire. Et je trouve que là, la limite est très fine, tout simplement parce que c'est quelque chose qui n'est jamais explicitement montré en fait. On a des signes, des fois on voit son corps tout simplement dans des situations, je pense notamment à cette forêt, à la plage, où on comprend qu'elle est morte, mais on la voit jamais faire commettre un suicide, même dans son imaginaire. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est plutôt, j'ai pas envie de dire fantasmé, mais qui touche plutôt à l'imaginaire. Et donc c'est tellement en fait implicite, c'est tellement dans l'imaginaire que on a du mal à se dire que ça fait véritablement partie d'elle. Et il y a quand même un truc qui vient nous le rappeler. Il y a cette scène de jeu, où en gros, il faut trouver qui est le tueur, et donc en fait les gens vont se cacher dans la maison. Et quand les gens tout simplement se sont cachés, ils ferment les yeux, et donc le tueur vient, touche quelqu'un et tue cette personne. Et donc après on demande à la personne, et comment tu es morte? Et en fait elle sort un truc hyper... qui a fait rire un peu nerveusement la salle, parce qu'en gros elle dit que oui, elle est morte avec de l'acide dans le ventre, etc. Un truc hyper un peu violent et précis à la fois. Donc du coup effectivement c'est à ce moment là que le film vient remettre quand même les pendules à l'heure, mettre une petite claque en mode il y a quand même cet aspect là de la personnalité où elle est hyper penchée vers le suicide, etc. C'était qu'une impression dans tous les cas, que en fait peut-être qu'en fait ça allait pas si mal, peut-être qu'elle va pas mal, hein. Moi je pense pas que ce soit un personnage qui aille mal, et justement c'est ça qui est fort, c'est que le film arrive à faire croire et à faire accepter que c'est pas parce que vous pensez parfois à la mort, à imaginer ce que ça fait, que vous allez mal en fait, tout simplement. C'est pas parce que vous êtes comme ça que vous vous dites que vous allez vous suicider. Et je trouve que ça arrive bien à passer, et c'est peut-être en ça que c'est différent du film de Kaufman, parce que le film de Kaufman, pour le coup, le personnage est vraiment en dépression et sa seule pensée à tout moment, c'est « je veux mourir, je veux me tuer ». Voilà, ce qui pour moi est aussi la seule pensée de Kaufman, qui est quelqu'un qui va pas vraiment bien dans sa vie, bref, mais ça c'est un autre débat. Mais pour le coup, c'est pas du tout pareil, je trouve, je trouve que c'est un film qui arrive à nous montrer ça, qui a la force de le faire, et pour le coup je trouve ça assez admirable. Et donc du coup, comme j'ai dit, c'est mon film préféré de la compétition américaine. J'espère tellement qu'il sera primé demain, je serai très content si c'est le cas, donc en plus je serai à la clôture, donc si ça peut être primé devant mes yeux, j'avoue que ça me ferait énormément de bien. En tout cas je suis très content d'avoir découvert ce film, et je pense que je vais l'aimer un peu plus avec le temps, chaque jour, parce que pour le coup je sens que c'est déjà en train de grandir, et pour le coup je j'ai vraiment adoré. Allez, on va passer à la dernière séance de cette journée, et pas des moindres, puisqu'on va parler du film Le Livre des Solutions de Michel Gondry.
Et à l'arrière, on installe les producteurs.
Ils peuvent rien voir, là, les producteurs.
Voilà, exactement, c'est ça. Attends, juste la marche arrière pour les rushs. La marche arrière qui passe pas.
À qui tu parles?
Personne.
La marche arrière...
Qu'est-ce que tu fous là, Carlos? Tu retournes au montage, s'il te plaît.
Marc s'ensuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d'idées qui le plongent dans un univers de chaos. Marc se lance alors dans l'écriture du livre des solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes. Alors bien évidemment, c'est un film que j'attendais tout particulièrement parce que Michel Gondry oblige. Voilà, aussi le fait qu'il le fasse avec Pierre Niney, c'était assez motivant en termes d'attente. Voilà, et pour le coup, Gondry, c'est quelqu'un qui a réalisé Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est moi un de mes films préférés, qui est dans le top 2 de mes films préférés de tous les temps. Voilà, je mets que Il était une fois en Amérique au-dessus. Sinon, voilà, si j'avais pas vu Il était une fois en Amérique, ce serait, je pense, mon film préféré. En tout cas, c'est le premier film que j'ai vu où je me suis dit, ok, ce film est parfait. Voilà, donc bref, j'avais très 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 hâte de voir Le Livre des Solutions. Et j'ai pas été déçu, c'est vraiment une comédie exceptionnelle. Voilà, où on s'est vraiment tapé des énormes barres, voilà, si je peux le dire ainsi, où toute la salle a vraiment rigolé à l'unisson, etc. Et donc ça fait aussi du bien vraiment de rire tous ensemble dans une salle à 300 personnes. Et donc ouais, en fait, si le film est aussi drôle, c'est parce qu'il y a des idées d'écriture de Michel Gondry qui sont absolument folle, en fait. Voilà, il y a quelqu'un qui a pris le micro à la fin pour lui demander un peu son processus d'écriture, parce qu'en fait la personne a dit que les répliques en fait sont tellement géniales que voilà, il avait l'impression d'entendre des répliques cultes à chaque fois, dans chaque phrase, en fait. Voilà, et en fait je suis plutôt d'accord. Voilà, c'est vrai que c'est des répliques qui sont assez pépites. Voilà, j'en ai pas forcément noté, mais en fait il y en a où effectivement, c'est assez, comment dire, je sais pas, c'est le style Gondry, en fait. On sent qu'il y a la patte Gondry, et en fait, ça rend vraiment les répliques mémorables, pour le coup, voilà. Et c'est assez, comment dire, je saurais pas comment exprimer ça, mais j'ai l'impression que c'est un truc qu'il y a vraiment peu de personnes qui peuvent le faire. Je pense que Chabat peut le faire, je pense que Gondry peut le faire, mais pour le coup, voilà, il y a peu de personnes qui peuvent le faire, que ce soit en France ou ailleurs, d'ailleurs, hein, mais voilà. Et pour le coup, ouais, effectivement, les répliques sont absolument géniales, absolument cinglantes, et en même temps, c'est aussi beaucoup lié au fait que Gondry se représente lui-même. Voilà, c'est un film qui apparemment est très autobiographique, ce qui est terrifiant, vraiment, ce qui est absolument terrifiant, parce que du coup, voilà, je ne veux pas travailler avec Michel Gondry, pour le coup, même si c'est quelqu'un que j'admire pour son travail. Bon, en vrai, si on me propose d'être dans un film de Gondry, je dis oui, évidemment. Mais c'est vrai que voilà, le fait que le personnage soit censé le représenter, que ce soit autobiographique, c'est un peu terrifiant, je dois dire. Voilà, en tout cas, il est vrai que apparemment, il a vraiment été comme ça dans la vraie vie. Hein, voilà, une période de sa vie où il n'allait pas bien, c'est ce qu'il essaye de raconter aussi pour se libérer de ça. Et je trouve que ça marche pas mal. Voilà, je trouve qu'il arrive bien à exorciser ses démons. Mais donc, je pense aussi que c'est un film qui, voilà, à l'image un peu de l'acteur, hein, dont je vous ai parlé, qui était centré sur Raphaël Quenard, pour le coup, qui va quand même pousser les limites assez loin. Voilà, je suppose qu'il n'était pas forcément comme ça, voilà, et qu'il a quand même exagéré les traits, pour le coup. Mais donc, ça permet d'entrer dans des situations mais absolument folles, où le personnage de Niney mais part dans des je sais pas comment expliquer ça, mais des délires qui vont super loin, en fait. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Et en fait, c'est exactement ce qu'il dit. En fait, il a un million d'idées à la seconde, et en fait, toutes ces idées-là, il doit les réaliser. Et donc, s'il dit que, ok, je vais le faire, il le fait. Voilà. Toutes les idées, il se doit de les réaliser. Et c'est ça qui fait que le film part dans des délires, mais absolument. Voilà. Bref, à la fin, on sait plus ce qui est réel, on sait plus. Voilà. Est-ce que effectivement ça s'est passé, est-ce que c'est dans sa tête, enfin tout se mélange, en fait. Et donc on arrive à avoir ce côté un peu onirique, voilà, qui fonctionne pas mal, enfin onirique cauchemardesque, pour le coup. Mais en même temps, il y a toujours ce côté, je trouve, un peu enfantin. Voilà, je trouve que le personnage de Niney, c'est quand même un grand enfant qui, pour le coup, voilà, normalement ça, c'est quand même une caractéristique des enfants, d'avoir 20 000 idées à la seconde et de voilà, d'avoir tout le temps quelque chose à faire, d'avoir tout le temps envie d'avoir quelque chose à faire, de faire quelque chose de nouveau. Voilà, ça, c'est une caractéristique qui est très présente chez les enfants. Et pour le coup, le personnage de Niney l'a totalement, voilà, qui, alors que c'est clairement un adulte et qu'il est censé représenter le réalisateur. Mais donc, effectivement, il y a cette patte enfantine, je trouve, voilà, qui colle bien à Gondry, très clairement. Et donc, il est vrai que, même si, bon, c'est vrai que ça reste quand même une relation de travail qui, pour le coup, avec cette personnalité là, et Gondry a dit qu'il n'aimait pas ce mot, mais je suis désolé, je vais quand même l'utiliser, ça reste une relation de travail qui est toxique, voilà. Et pour le coup, c'est pas dérangeant, hein, y a pas de souci, hein, c'est vraiment pas montré. Effectivement, les personnages ont quand même de l'amour et de de la, enfin, du respect en tout cas pour ce personnage de Marc, parce que bon bah voilà, le mec est quand même doué malgré le fait que il les tyrannise, qu'il part dans tous les sens, c'est quand même quelqu'un de doué. Mais voilà, jamais on montre que en fait le, cette relation que moi j'appelle toxique est une bonne chose. C'est pas du tout ce qui est montré dans le film. Et pour le coup, ça m'a absolument pas dérangé que ça le soit. J'estime juste que factuellement ça l'est. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets d'utiliser le mot malgré le fait que le réalisateur nous ait dit qu'il n'aimait pas l'usage de ce mot pour parler des relations humaines. Moi je trouve qu'il est adéquat, voilà, donc je l'utilise tout de même. Mais donc voilà, il y a des choses très humaines, je trouve, qui se jouent aussi dans ce film, notamment avec le personnage de Françoise Lorrain, voilà, qui est absolument exceptionnel. Mais tous les acteurs et les actrices de ce film sont exceptionnels, et voilà, je pense que effectivement faut voir si Ninet peut pas aller chercher un autre César, parce que pour le coup voilà, c'est une de ses grandes performances, clairement. Il est très 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 en forme sur ce film, voilà, à l'image de son personnage. Et donc pour le coup, ouais, à suivre les Césars, ça va être très intéressant cette année, je pense. À noter la présence aussi de Camille Rutherford, voilà, qui est une actrice que personnellement j'aime beaucoup, voilà, que j'avais notamment je pense découvert et beaucoup apprécié dans le film Felicita, voilà, qui bref, une actrice formidable. J'ai été très contente de l'avoir là. Elle est aussi, me semble, dans Anatomie d'une chute, qui sort en août, voilà, qui a eu la Palme d'Or. Voilà, elle était dans La Nuit du 12 aussi, donc bref, effectivement, c'est une actrice qu'on voit de plus en plus, et pour le coup, je dis n'importe quoi, elle a quand même une carrière qui remonte à une bonne dizaine d'années maintenant, même plus. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que tous les gros films français ces derniers temps se font avec elle, et pour le coup voilà, j'en suis très content. Donc voilà, il y a quand même un propos sur le cinéma, hein, bien évidemment. C'est un film qui est très méta. D'ailleurs, sur l'aspect méta, je conclurai par quelque chose qui était absolument formidable. J'avais jamais ressenti ça dans ma vie, j'avais jamais vécu ça, mais bref, c'était fou. Mais donc oui, il y a un aspect méta où voilà, c'est quand même un réalisateur qui va à tout prix finir son film, et en même temps qui a quelque chose d'assez rigolo, dans le sens où il veut pas du tout regarder le film. Voilà, il dit je regarderai le film une fois le montage terminé, mais pas avant. Et c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas voir le film, il veut pas se poser, regarder les images, etc. Ça l'intéresse pas. Et je trouve que c'est assez révélateur aussi de Gondry. Voilà, ça a pas l'air quelqu'un qui est très, comment dire, je sais pas, qui je le vois pas se poser regarder ses films, quoi, voilà, par exemple. Mais bref, mais donc du coup oui, après j'en sais rien, hein. je dis ça voilà avec l'impression que j'en ai eu pendant le Q&A, mais effectivement je pense que ça fait partie des gens qui ne regardent pas voilà leurs films. Et pour le coup, ouais, voilà, c'est un film quand même qui, bon bah voilà, place l'importance du cinéma de ok, je veux finir ce film là, je veux qu'il soit à mon image, je veux le faire à ma manière, à ma méthode, voilà, et donc ça marche pas, c'est pas grave, ok, on va inventer une solution, voilà. Et donc ça, c'est quand même assez fort, c'est vraiment l'équivalent de la phrase d'Aurel San, si tu veux faire des films t'as juste besoin d'un truc qui filme. Pour le coup voilà, c'est vous savez pas le faire, bah c'est pas grave, vous apprenez, vous trouvez quelque chose. Voilà, il y a le personnage de Pierre Ninet qui donc se met à un moment à se dit ok, je vais faire la musique du film, alors qu'il n'y a pas du tout compositeur, etc. Il y a un orchestre qui arrive, il a pas du tout de partition, et il leur fait bon, ok, bon bah pour cette musique là je vais vous faire un truc à la bouche, vous allez essayer de le jouer, et donc l'instrument où j'estime que c'est le mieux, vous allez tous vous mettre derrière lui, vous allez le suivre, on va faire la BO comme ça. Et il fait la BO comme ça. Et il y a des trucs aussi où moi je me suis beaucoup reconnu, parce que même avec ce podcast, hein, j'ai tenté des trucs au culot, hein, où je me suis dit bon bah dans tous les cas j'ai rien à perdre, donc autant le faire. Et donc c'est le cas, bon je spoile pas, voilà, à qui il fait appel pour faire la musique du film aussi. Mais donc voilà, c'est ce culot là aussi, bref, cette fougue, ce culot qui voilà, est très utile, je pense, pour un jeune cinéaste, qui vont beaucoup se retrouver là-dedans. Et en même temps, voilà, ça reste quand même un film qui est absolument hilarant. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je tiens quand même à le redire. C'est un film qui est très très drôle et devant lequel on passe un très bon moment. Et voilà, qui en parle aussi de cinéma, parle de création, parle de voilà, ce qui peut traverser l'esprit d'un créateur, d'un auteur pendant cette création-là. Donc bref, c'est un film qui aborde des sujets quand même très intéressants, qui, je pense, fait beaucoup de bien à son réalisateur en termes de voilà, libération de ses névroses, voilà, puisque c'est vraiment, on pourrait appeler ça le livre des solutions à la névrose, hein, clairement. C'est un personnage très très névrosé, je pense que Gondry l'est aussi, et je pense que ça lui a fait du bien de faire ce film, donc écoutez, tant mieux, en plus ça nous donne un bon film. Et donc sur l'aspect méta, c'est un film donc qui se termine par l'avant-première du film, tout simplement, que fait Pierre Ninet dans le livre des solutions. Et donc cette avant-première a été tournée dans la salle 1 du Balzac, et le festival a programmé ce film dans la salle 1 du Balzac. Donc ça veut dire que la dernière scène donc à l'écran se déroule dans la salle dans laquelle on regardait le film, voilà. Et ça, en termes de sensation, je l'avais jamais vécu, et c'est une sensation absolument extraordinaire. Je ne saurais pas vous décrire ça, mais vraiment cet aspect métal-là, le fait d'avoir terminé le film dans la salle où ça s'est... Enfin, le fait d'être dans la salle, d'avoir vu le film dans la salle où il se termine, pour le coup, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu, et sincèrement, je vous souhaite à tous de vivre ça, parce que c'est... C'est vraiment particulier, vraiment c'est quelque chose et voilà, j'ai adoré la sensation, donc merci au festival de l'avoir programmé dans cette salle-là parce que c'était exceptionnel. Allez, c'est la fin de cet épisode, voilà, demain c'est donc le palmarès, la cérémonie de clôture et le film de clôture, Le syndrome des amours passés, qui a l'air aussi extrêmement drôle, donc j'ai très très hâte de voir. Alors mon pronostic, je ne sais pas trop vraiment, je ne sais pas vraiment. À Cannes, voilà, on arrive un peu à déceler parce qu'on connaît un peu les prix, etc. Là, j'avoue que je n'ai pas assez de recul, je ne connais pas les prix, je ne connais pas forcément aussi les avis du jury. Donc, je ne pourrais pas faire des pronostics. Par contre, je pourrais vous donner mes envies. Donc, pour la compétition française, je voudrais que ce soit soit La Bête dans la Jungle, soit État Limite. Après, il y a prix du jury, prix du public. Donc, si ça peut être les deux, je suis content. Et pour la compétition américaine, je veux que Sometimes I Think About Dying soit récompensé, clairement. Et je veux aussi que Mutt soit récompensé, voilà, parce que c'est un film absolument excellent. Et si Club Snet est récompensé, ça me voilà, je serais ok avec ça, je serais content pour de vrai, mais je préfère quand même Sometimes I Think About Dying avant tout. J'espère que voilà, il aura des prix tout simplement. Et donc voilà, moi je ne vous dis pas à demain parce que c'est un peu compliqué pour moi d'enregistrer le soir de la clôture, donc je vous dis sûrement à jeudi ou vendredi pour le débrief donc du palmarès et du film de clôture. Voilà, et donc je fais un petit message dès maintenant, mais ça a été un vrai plaisir de faire ce festival et voilà, je suis quand même déçu qu'on arrive au dernier jour. Et donc bref, voilà, j'ai quand même très hâte de vous débriefer tout ça. Donc écoutez, je vous dis à dans quelques jours pour le dernier épisode sur l'édition de cette année.